Radio Okapi. Toutes nos excuses pour 5 minutes de retard, c'était indépendamment de notre bonne volonté. C'est l'heure maintenant de nous informer. À la une de l'actualité de ce mardi, d'abord ce drame en Ituri. Au moins 21 personnes et plusieurs blessés lors de l'offensive de la milice Codeco contre les groupes armés Zaïre et Nizi et Lopa, deux localités situées à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia. Détail dans un instant. Et notre bilan macabre dans ce journal, 4 morts, conséquence d'un accident de circulation intervenu ce mardi sur la route de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa. Nous y reviendrons. L'invité de ce midi est le promoteur de la radio communautaire d'Itunga, de Ngandajika, émettant sur la 102.3 FM dans la province de l'Omami. Abbé Sibaka Sikongo s'entretient avec Esther Ndalafina sur les 15 ans d'existence de cette radio. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. À Ituri, au moins 21 personnes sont mortes et d'autres blessées lors de l'offensive lundi de la milice Codeco contre le groupe armé Zaïre allié à la CRP de Ninzi et Lopa, deux localités situées à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Des sources locales renseignent que les combattants de Codeco se sont retirés de ces entités, mais des tirs sporadiques se font encore entendre et des scènes de pillage sont signalées dans la région qui est vidée de tous les habitants. Isaac Remoyope.
À Nizi, où la milice Zaïre a opposé une certaine résistance, 18 personnes ont été tuées selon les autorités coutumières locales. La majorité des victimes sont des civils et l'on dénombre également une dizaine de blessés. D'autres sources parlent des 12 miliciens de Zaïre neutralisés lors des combats avec des armes récupérées sur place. À Lopa, la société civile déplore la mort de 3 civils et 2 blessés lors de l'entrée brutale de la Codeco dans la localité. Là aussi, la population a fui massivement. Les combattants de Codeco se seraient depuis retirés, d'après des sources locales. Mais des tirs sporadiques continuent de retentir, maintenant la population dans la peur. À Nizi, certains déplacés s'apprêtaient à rentrer chez eux avant de rebrousser chemin, découragés par de nouveaux tirs et des scènes de pillage. Des pillages attribués notamment à certains éléments des phares d'essai, selon certains témoignages. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Le trafic reste suspendu, tout comme les activités commerciales dans les deux localités. La situation sécuritaire reste donc instable et très préoccupante dans cette partie du territoire de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Cap sur le nord qui voit présent où des affrontements opposent les rebelles AFC et M23 sur plusieurs fronts ce mardi. Ces heurts se déroulent précisément dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Plusieurs sources locales confirment que ces affrontements interviennent après au moins 3 jours de combats opposant le même mouvement AFC M23 aux combattants Wazalendo de Nduma pour la défense du Congo dans une partie du territoire voisin de Walikale. Ces sources déplorent enfin la résurgence de ces combats moins de 72 heures seulement après la signature de l'accord de principe de Doha. Des détails avec vous, Stani Diomi.
Depuis 4 heures du matin, certains notables locaux parlent d'une attaque de rebelles M23 contre plusieurs positions de Wazalendo du groupe de résistants patriotes congolais dans la partie sud du territoire de Massissi. C'est notamment dans le village Kasséni, Katobotobo, Karoba, Luke et Bukumbiri en groupement Nyamaboko 1er et Mufuni Kibabi. D'autres combats sont signalés dans le village Bunko en groupement Bukombo Cheferi de Buito, territoire de Rutshuru. Selon ces sources, depuis samedi, des accrochages sporadiques opposent les rebelles M23 AFC au Wazalendo du collectif de mouvement pour le changement dans ce groupement. Au moins 8 civils ont déjà été tués et 7 autres blessés par des engins explosés et par balles dans ce conflit armé. C'est notamment à Bukombo au centre et dans le village de Kazuba et Sissa. Par ailleurs, nos sources affirment que hier, lundi, c'était le 3e jour consécutif des affrontements opposant l'AFC M23 aux combattants VDP de Douma pour la défense du Congo dans le groupement Kisimba en territoire de Walikale. Là aussi, la situation reste tendue jusque ce mardi dans le village Kobe et Banakindi, disent ces sources. Elles craignent que ce développement de la situation mette en péril le processus de paix de Doha et de Washington.
Déclaration des principes signée à Doha entre Kinshasa et la rébellion M23 AFC. Justement, le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur est clair. La restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées est une exigence incontournable qui passe entre autres par le retrait des forces rebelles. Jackman Chabani a souligné cette position du gouvernement congolais hier lundi. C'était lors du briefing de presse co-animé avec son homologue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Une synthèse de cette communication avec Marcel Ngomombala.
D'emblée, le ministre a expliqué que la déclaration de Doha constitue une étape préliminaire ouvrant la voie à un accord de paix formel prévu le 17 août 2025 avec un mécanisme de vérification impliquant le Qatar et la MONUSCO. Pour Jackman Chabani, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées est une exigence incontournable qui passe par le retrait des forces rebelles, le retour de l'administration publique et le redéploiement des forces nationales de sécurité. Il insiste qu'il est hors de question de confier la sécurité des Congolais à une force autre que l'État. Il poursuit que cette restauration de l'État passera par la réinstallation des institutions publiques dans les zones concernées. Il a rappelé que deux mesures transitoires avaient été prises, comme la délocalisation temporaire des capitales provinciales à Beni et Uvira, en attendant un redéploiement complet. La RDC veut rompre avec le cycle de violence, a noté au passage Jackman Chabani après avoir identifié les causes du conflit, en partie provoquées par le Rwanda.
Le fait d'avoir réussi à aujourd'hui identifier l'un des acteurs majeurs, le Rwanda, qui est une des causes profondes de l'insécurité en République démocratique du Congo, c'est des avancées. Maintenant, il ne suffit pas d'identifier les causes profondes, il faut mettre fin à ces causes profondes.
Le ministère de l'Intérieur a révélé préparer le redéploiement administratif et sécuritaire, notamment avec un renforcement du rôle de la police nationale, instrument central de la reprise en main étatique. Ces processus s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements contenus dans la déclaration des principes de Doha.
Une réaction à la signature de cet accord de principe intervenu le week-end à Doha entre la délégation du gouvernement congolais et les rebelles du M23. C'est celle de l'ambassadrice de Belgique à Kinshasa. Pour Roxane de Biderling, cette signature marque un pas important vers la stabilisation de l'Est et de la RDC. C'est l'avis exprimé par l'ambassadrice de Belgique à Kinshasa lors de son discours tenu lundi soir à l'occasion de la célébration de la fête nationale belge. Pour cette diplomate, les efforts déployé par divers partenaires pour trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'Est du pays bénéficie du soutien de son pays. Elle a profité de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la Belgique à continuer d'appuyer la RDC en toutes circonstances. Les propos de l'ambassadrice belge en RDC Roxane de Biderling sont repris dans cet extrait choisi par Ronelli Ntibonera.
La Belgique se tient plus que jamais aux côtés de la RDC pour œuvrer ensemble à une vie meilleure pour la population, dans la paix, le développement et la cohésion. Nous mettons en œuvre ici notre plus grand programme de coopération. Sur le plan politique, la Belgique soutient activement les efforts consacrés par divers partenaires pour faire cesser le conflit et assurer un chemin vers la paix. Et je tiens ici à saluer la récente signature de la déclaration de principe entre les autorités et le mouvement AFC M23 à Doha. C'est une avancée qui marque un moment crucial pour la quête de paix et de sécurité pour les populations à l'est de la RDC. Il faut continuer à aller de l'avant en ce sens. De manière résolue, dans les prochaines semaines, nous continuerons à appuyer les initiatives qui viseront à mettre en œuvre ces accords et à établir et consolider une paix durable.
L'actualité, c'est aussi les facilitatrices de la médiation de l'Union africaine qui se félicitent de la conclusion réussie de la première phase de la mission conjointe de facilitation en RDC conduite du 14 au 19 juillet 2025. En tout cas, les anciennes présidentes de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Saleh Wok Zede, et celle de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, ont agi en qualité de représentantes du médiateur désigné par l'Union africaine Fort et Sozina Niasigwe, président du Conseil de la République togolaise. Plus de détails de leur mission dans ce communiqué de la MONUSCO, résumé ici par Thérèse Kankou.
Au cours de cette première phase, les facilitatrices ont mené une série de consultations de haut niveau avec les institutions congolaises. Elles ont été reçues en audience par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et ont échangé avec la première ministre ainsi que plusieurs ministres sectoriels sur les priorités du gouvernement en matière de paix, de justice transitionnelle et de cohésion nationale. Des rencontres ont également eu lieu avec des bureaux du Sénat, de l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec les représentants des 7 confessions religieuses reconnues en reconnaissance du rôle clé des leaders spirituels dans les processus de réconciliation nationale. La mission a aussi porté une attention particulière aux survivantes des violences sexuelles liées au conflit, notamment à travers une rencontre avec le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, réaffirmant l'importance d'une justice centrée sur les survivants. Les facilitatrices ont consulté des représentants de la jeunesse, des femmes, de la société civile, des chefs coutumiers et des communautés affectées par les conflits afin de garantir que leur voix soit intégrée dans les solutions envisagées. Des échanges ont également eu lieu avec la communauté humanitaire et l'équipe pays des Nations Unies. Les facilitatrices saluent la signature de la déclaration des principes de Doha qu'elles considèrent comme une avancée significative vers une résolution durable du conflit.
Nous le disions en titre, 4 morts et une vingtaine de blessés, bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce mardi vers 5h sur la route de Matadi, au niveau du marché délocalisé de Matadi Kibala au Kampem, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. D'après l'autorité communale, un véhicule à provenance de la province du Congo central a connu une panne. Il a ramassé des vendeurs sur son passage. Suivez ces précisions de Danny Kouete, l'administrateur du marché.
Il y a un véhicule, un Ben, qui a perdu contrôle. Ça partait vers la direction IPEN. Ça venait vers Mitingi. C'est allé vers l'autre bande. Ça a pris quelques passants et puis les vendeurs et vendeuses qui étaient juste à l'entrée du marché. Les sites provisoires qu'on a prévu ériger les opérateurs économiques en attendant la construction du marché vers l'ancien site. Pour l'instant, nous avons 4 morts et 21 blessés qui sont éparpillés dans les différents centres de santé.
Crise de tests et de dépistage du VIH-Sida dans la zone de santé de Niangara en province orientale. Et cela dure depuis près d'une année. À la base, évidemment, la rupture de tests et de dépistage. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter aussi l'absence des médicaments pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Une situation alarmante qui met en péril la santé de plusieurs centaines de femmes enceintes et de leurs enfants. Jean-Claude Lokidile.
Plus d'un millier de femmes enceintes n'ont pas été dépistées au VIH lors des consultations prénatales à Niangara. Résultat, 16 enfants nés de mères séropositives entre juillet 2024 et juin 2025 n'ont pas bénéficié d'un suivi médical adéquat. Sur les 3091 femmes enceintes attendues à la consultation prénatale, seulement 1671 ont été testées. C'est une situation très inquiétante car certains enfants peuvent naître déjà infecté. Docteur Didier Amoudiandroi, médecin chef des zones de santé de Niangara.
La ligue contre le VIH, c'est qu'on puisse tester le maximum de personnes. Vous voyez que non, tout ça, si ce n'est pas fait, c'est difficile maintenant de stopper soit la transmission, surtout mère à l'enfant, et aussi stabiliser ceux qui sont déjà infectés. Par là aussi, éviter de nouvelles infections.
La situation devient d'autant plus préoccupante quand on sait que la prévalence du VIH-Sida dans les hauts où il est estimée à 7,4% selon une enquête menée entre 2023 et 2024. Le docteur Amoudiandroi lance un appel pressant au gouvernement et aux responsables du programme VIH.
Ça pourrait vraiment permettre à ce qu'on puisse bien aider des bénéficiaires.
Malgré cette crise, la zone de santé de Niangara dispose encore d'un stock suffisant d'antirétroviraux pour les patients déjà sous traitement. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC met en place l'équipe provinciale des Nations Unies épluée en sigle. C'était hier lundi à Kisangani, au terme d'une réunion ayant regroupé tous les chefs d'agence de Kisangani, Bouta et Isiro. Cette approche vise notamment à assurer la planification des actions sur le terrain. Elle va également renforcer les partenariats locaux, comme l'explique Bruno Lemarquis. Il est au micro de Jacques Moukonkole.
Il y a pas mal d'agences des Nations Unies qui travaillent ici dans la Tchopo. Donc l'idée, c'est de travailler encore plus comme système des Nations Unies, par exemple sur des thématiques communes qui sont rassembleuses de plusieurs agences Comme ça, les agences travaillent vraiment ensemble, encore plus que maintenant. Si je prends par exemple le potentiel du couloir vert dans la Tchopo, c'est un gros sujet à Kinshasa, le couloir vert. Donc voilà, comment est-ce que les agences peuvent réfléchir ensemble, travailler ensemble? Tout ce qui est l'appui aux autorités provinciales pour la planification du développement, c'est un sujet qui concerne toutes les agences, etc. etc. Donc voilà, comment travailler beaucoup plus ensemble? Quand il y a des rencontres avec les autorités provinciales ou avec les partenaires de la société civile ou avec les visiteurs, les partenaires techniques et financiers, les Nations Unies sont mieux organisées et parlent d'une seule voix. C'est ça l'idée.
Actualité internationale.
Au Gabon, les querelles se poursuivent au sein du Parti démocratique gabonais PDG, l'ancien parti unique qui a dirigé le pays durant 55 ans. L'équipe nommée ou confirmée par Ali Bongo, ex-chef de l'État renversé en 2023, a souhaité tenir une réunion au siège de la formation. Mais l'équipe dirigée par Blaise Louembe, président élu lors du congrès de janvier dernier et qui a les contrôles actuellement, en a refusé l'entrée. Il n'y a pas eu de violence, mais l'incident du jour marque un tournant décisif dans le contrôle de cette formation.
L'invité.
Dans la province de Lomami, la radio communautaire d'Itunga de Ngandangika, émettant sur la 102.3 FM, a totalisé 15 ans d'existence. Une messe d'action des grâces s'est tenue dimanche en Ngandangika pour célébrer cet anniversaire. Pour en parler, nous recevons en invité le promoteur de cette radio, Abbé Sibaka Sikongo, qui s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour professeur Abbé recteur Sibaka Sikongo. Aujourd'hui, la radio d'Itunga totalise 15 ans d'existence. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Célébrer 15 ans d'une radio, c'est vraiment vivre une étape, un tournant dans sa vie. Parce qu'une radio est un média très utile, mais c'est aussi un média très coûteux, surtout dans un milieu rural où, malgré la générosité des gens, vous ne parvenez pas à réunir tous les moyens nécessaires pour la faire fonctionner. Et il n'est pas facile de trouver non plus des ressources humaines, parce que la plupart des personnes formées abandonnent nos villages et préfèrent vivre en ville. Et donc avoir tenu pendant 15 ans, c'est pour nous un motif de joie et de fierté, l'occasion de célébrer tous ceux qui ont rendu cela possible.
En créant cette radio, quel objectif avez-vous poursuivi?
Radio d'Itunga fait partie de l'ASBL d'Itunga. Donc ce n'est qu'un département, un service qui apporte un support médiatique à tout le travail de développement que nous réalisons dans notre région, qui est un travail qui comprend plusieurs secteurs, donc la scolarisation, l'agriculture, la protection de l'environnement, les questions de santé, la protection des enfants abandonnés, la promotion de la femme, la prise en charge des prisonniers, l'appui aussi à l'église. Donc c'est plusieurs programmes que porte notre petite association et on a découvert que ce travail-là, lorsqu'il atteint une certaine dimension, a besoin d'un appui médiatique. Et donc là, ça a été notre grand objectif, offrir à notre travail social, mais par-delà notre structure, c'est rendre service à la communauté en créant un média libre, indépendant. Notre ligne de gestion, c'est la gratuité, sauf quand il est question de la propagande politique, commerciale. L'information est gratuite, les interviews sont gratuites. Tout est gratuit. La garantie de l'indépendance, de l'autonomie. Donc, on a voulu construire un média libre, indépendant, objectif, être un média crédible, professionnel, dans les limites de nos moyens.
Les services qu'offre Radio d'Itunga sont gratuits. Comment faites-vous face aux charges, dont notamment la paye des journalistes qui travaillent et aussi l'achat de matériel de travail?
Notre radio fait partie d'une ASBL qui, en dehors des œuvres de charité, a des œuvres d'autofinancement par laquelle elle finance ses œuvres. Et donc là, c'est fondamental pour nous. Les bénéfices que nous faisons dans les champs, la vente de produits agricoles, l'hôtellerie, ça nous permet de porter la charge de toute la structure, y compris la radio. Mais aussi la population locale, dans la mesure de leurs possibilités. Nous savons par exemple que les stylos, les papiers sont généralement donnés par les auditeurs. Et il y en a même qui nous font des dons en nature, des légumes, des bananes, du maïs, du manioc, ou des pigeons ou un coq pour la radio, pour leur radio. Ça, c'est notre deuxième source de contribution.
Et qu'est-ce que vous faites avec ces dons en nature?
Les dons en nature, non, les convertissons, on peut dire, bon, cette poule, c'est 20 000 francs ou 15 000 francs. Alors, si un des travailleurs veut l'acheter, il achète, ça entre dans la caisse de la structure, moi-même, ou bien un autre service d'hôtellerie peut racheter des dons en nature pour les clients et faire une compensation en faveur de la caisse de l'association.
Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés?
Beaucoup de défis du point de vue des ressources humaines. Comme je l'ai dit, on est dans un milieu rural où les compétences techniques ne sont pas nécessairement présentes. Beaucoup de gens formés restent dans les villes. Il y a le défi des infrastructures. Vous êtes dans un milieu rural sans aucun réseau d'électricité publique. Au début, ça nous coûtait 3 000 $ chaque mois en termes de carburant. Puis nous avons évolué vers le solaire, mais ça demande de gros investissements. Il y a le matériel qui vieillit, qu'il faut renouveler, qui coûte cher. On est en train de renouveler tout le matériel. On est même passé d'un émetteur de 1000 à des émetteurs, et on en a 3 de 1000. On est passé à 2000 watts. Donc il faut adapter les antennes. Ça fait toute une nouvelle radio, de nouveaux appareils qu'il faut acheter. Il y a aussi le défi du harcèlement administratif. Vous êtes soumis par des fonctionnaires de l'État et souvent en violation des normes de l'État à une fiscalité arbitraire.
Professeur Abbé Recteur, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Esther Ndalafina.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Thérèse Kangou et mise en onde par Alain Goy. Encore une fois, toutes nos excuses, chers auditeurs, pour les désagréments causés au début de ce journal.